Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Ce mois-ci, on enfile nos plus belles baskets et on court après l'une des plus grandes athlètes françaises, Marie-Josée Pérec. Peu de chances qu'on arrive à la rattraper, mais on pourra au moins vous dresser notre portrait de cette grande championne. Parce que Marie-Jo, elle est quand même le triple médaillé d'or olympique, et je crois que du côté français, seul Tony Estanguet a égalé ce record. Mais au-delà de l'athlète, il y a une personnalité décrite par les médias comme introvertie, solitaire, voire agressive. Alors, Marie-Jo, qui es-tu ? On va essayer de modestement répondre à cette question avec mes petits camarades. Salut Chloé !
Coucou, c'est moi !
Salut Younes !
Bonjour à tous !
Salut Thibaut !
Salut, salut !
Et salut Olivier.
Salut Sarah, ça va?
Ah bah ça va et toi? Bah
écoute, c'est formidable.
Et je vous propose pour commencer d'écouter un portrait de Marie-Jo proposé en 2017 à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes.
Marie-Jo l'instinctive, tu connais le dicton. Ce qu'on ne peut tenir, il faut le laisser courir. Alors tu cours et le 400 mètres devient ton obsession. À Tokyo, tu l'exploses ce titre. Au JO de Barcelone, c'est la médaille d'or. Et de une. Tu ne lâches rien. 4 ans plus tard, tu remportes le 200 et le 400 mètres à Atlanta. Et de 3. Tu es la plus brillante athlète française depuis des décennies, mais tu ne veux plus d'une vie comme une course effrénée.
De toute façon, la vie, il y a des hauts et des bas. On a traversé une période noire, maintenant ça va beaucoup mieux.
Oui, ta décision est mûrement réfléchie. Si tu raccroches, c'est pour mieux te protéger. Devenue mère, tu veux aussi transmettre. Tu t'engages pleinement pour soutenir le monde du sport. Tu as fait notre fierté, tu as ouvert la voie. Merci Marie-Josée.
Alors, et vous ? Et vous, les copains, qu'est-ce que ça vous évoque, Marie-Jo ?
Elle a ouvert la voie.
Olivier, je commence par toi.
Ah, pardon.
Elle a ouvert la voie, je suis d'accord avec Younes pour une fois. Alors, il faut savoir que j'ai un gros contentieux avec Younes, né d'une guerre MPG.
On aimerait bien
gazon.
Ne pas en entendre parler pendant cet épisode.
Je pourrais vous en parler longtemps, mais sachez que dans mon petit gazon...
La défaite est amère pour Olivier.
Il n'y a pas eu de défaite, il y a eu match nul. Oui. Mais sachez que...
Il en parle comme une défaite.
contre toi, c'est une défaite. Dans mon petit gazon, il n'y a pas de place pour l'anti-jeu et Younes en fait de l'anti-jeu.
Alors, pour être honnête jusqu'au bout, en fait, il faut dire aux auditeurs que Olivier et Younes sont dans deux pièces différentes.
Oui,
on a été obligé.
Marie-Josée Pérec, moi, quand j'ai commencé à apprendre qui elle était, c'était en 2000. Donc, alors forcément, j'ai appris qui elle était un petit peu déjà avec ses déboires. Donc, j'avais pas forcément une bonne image d'elle. Les médias ne lui accordaient pas vraiment une bonne image non plus. Et c'était un petit peu une surprise quelques mois, quelques années après, de voir à quel point c'était une championne de ouf, que c'était l'une des plus grandes championnes françaises qu'on a jamais connue. Et encore plus après, notamment en préparant cet épisode, de voir à quel point peu de gens pouvaient la comprendre finalement. Mmh. Peu de gens ont essayé de la comprendre.
Nous
avons réussi.
Et nous, on va le faire. Et toi, Thibaut ?
C'est pour ça que cette émission durera 8 heures.
C'est une psychanalyse en fait.
Moi, mon meilleur souvenir, comme beaucoup de gens, c'est les Jeux Olympiques de 96. Et j'ai découvert...
Tu t'en souviens ?
Ouais, j'avais 9 ans. Et pas de blague encore sur l'âge de Younes qui a 77 ans. Ah si, merde.
À l'époque.
Ça va.
Au-delà de l'élégance, parce qu'elle est super élégante quand tu la vois sur une piste d'athlétisme, c'est vraiment pour moi la femme française qui était capable de gagner dans des disciplines où la France gagne rarement. Pour moi, le 200 mètres, le 400 mètres, c'est des disciplines d'Américains où on peut jamais gagner. Et elle a montré que la France pouvait gagner partout. Donc c'est symbole d'excellence pour moi, Marie-Josée Pérec et d'élégance.
Cocorico, j'allais dire Corokiko, ça allait pas.
Cocorico.
Cocorico, Younes.
Moi c'est alors déjà les JO de Barcelone pour moi sont peut-être mon plus grand souvenir de sport à la télévision.
Allez. C'est vraiment qu'à chaque fois qu'on parle des JO, quel que soit, c'est son plus grand souvenir de sport. Tu avais dit ça pareil pour Athènes, les premiers JO.
Hein. Mais tu peux le laisser parler Olivier.
Et pour Munich en 36.
Et pour Munich en 36.
Non, en vrai ça correspond un peu, c'est elle qui contribue beaucoup aussi à l'excitation qu'il y a autour de l'athlétisme, parce que première semaine effectivement on a un peu tout un pan omnisport. Et,
avec un S.
Avec un
S, bien sûr. Et deuxième semaine, bah, là, on a les épreuves rennes. Donc, on a le 100 mètres, on a le 200 mètres. Le 300, le
310, alors le 227 qui était quand même à l'époque assez compliqué.
Non, le 312 était très très relou, très chelou, mais il fallait le faire quand même. Et le 800, etc. Et Marie-Jo, bah, forcément, en fait, c'est un totem, une figure. Et moi, j'ai très mal vécu avec elle la descente aux enfers parce qu'en fait, elle s'en prenait plein la gueule. Et c'était très compliqué de voir à quel point en fait on piétinait les gens qu'on a adorés en France.
C'est beau voilà. Ce que tu dis, Younes. Et toi, Chloé ?
Alors moi, si je peux juste revenir sur l'extrait que t'as mis juste avant, pour moi, c'est soit une pub pour un déodorant, soit pour des serviettes hygiéniques. C'est pas du tout sur la vie de Marie-José Pérec.
Ça y ressemble.
Je la connaissais assez peu. Je savais juste qu'elle était ministre des Sports à un moment où j'étais à l'école, plutôt à la crèche.
Non, elle a fait partie des délégations sportives oui. Probablement, ça c'est sûr, ouais. Qu'elle le fait pas... peu après, mais elle n'a pas été au ministère.
D'accord, j'ai aucune idée de qui est Marie-José Pérec.
Mais le coup de bluff, c'est le gardien bon sur la ministre. Ouais.
C'est le gardien chauve, tu sais, qui est de 98.
Oui, oui.
Tu parles de
Chilabert. Chilabert.
Je l'aime trop. Non, mais
ministre, tu parles de David Douillet, je crois, en fait.
De Laura Flessel.
Il y en a tellement. Non, du coup, bah, je sais pas trop d'où ça sort, mais
tu es au collège, c'est ça?
Non, à la crèche, je t'ai dit.
À la crèche. Donc, oui. C'était il y a deux ans. C'est donc, qui va le rappeler celle, hein, je pense.
Ouais, ça devait être ça. Mais non, il y avait. Je pensais que c'était ça. Donc, bon, ben, déjà, ça me confirme que non. Mais surtout, en fait, moi, l'athlétisme, c'est un truc que je suis pas trop. Parce que déjà, courir, j'aime pas ça. Ah. Je ne suis pas trop. Voilà, je fraude, mais je fuis pas les contrôleurs, si tu veux. Parce que j'ai la flemme.
Tu acceptes la défaite.
C'est bien.
Ce qui est intéressant,
j'accepte.
C'est que ça montre que pour quelqu'un qui a pas connu Pérec. Qui gagnait, oui. Ça n'évoque que rien, enfin, pas avant tout, mais ça montre bien qu'elle a, oui. qu'elle a vraiment disparu ensuite. Enfin,
oui, elle a complètement disparu après les années 2000.
C'est un petit point que je ferai à la fin, parce qu'elle s'est reconvertie assez récemment, et effectivement, les gens de ma génération, à peu près, savent pas trop.
Bah parce qu'elle a organisé sa disparition.
Tu veux dire qu'elle a payé des gens, qu'ils lui ont fait un faux cercueil,
un faux passeport, etc.
Elle a fini au Liban.
Et toi, Sarah ?
Et moi, Marie-José Pérec, ça m'évoque les guignols de l'info, cours Marie-Jo cours, oui. Elle s'en est pris plein la gueule quand même aux guignols de l'info, où elle était en mode complètement parano. Bon, c'était assez drôle. Et puis, il faut toujours se dire que c'est une fierté d'être aux guignols de l'info.
Les fameux chinois du FBI. Ouais.
Exactement. Ouais. Et donc, je pense que c'est la preuve que c'était une très grande pour avoir été, eu sa marionnette quand même au journal de l'info.
Ouais,
c'est
une consécration. Ouais, c'est une consécration.
Exactement. On a hâte que ça nous arrive, mais ça n'existe plus. Donc, c'est pas possible.
Non,
voilà.
Non.
Sinon,
fini.
On l'aurait, notre
aux États-Unis maintenant, ils ont une nouvelle émission. Ils ont les guignols de l'info, c'est aux États-Unis, figure-toi maintenant.
Mais ils le font en anglais.
Ils le font en anglais, mais ils ont repris exactement la même thématique. Fait, les guignols de l'info existent aux États-Unis, mais plus en France.
Et Guignol avait repris déjà le concept qui était un concept anglais.
Très bien, merci beaucoup. Alors,
merci Pierre Tchernia.
On va tout de suite y aller.
De rien.
On va commencer donc par le début. Oui. C'est qui cette Marie-Jo ? Elle vient d'où ? Elle est née quand ?
C'est une ministre. Je le sais.
On voit que Chloé a très bien fait son travail. Hein. Alors bravo, félicitations.
Bah oui, mais j'ai pas de souvenir à ce moment-là, j'étais très jeune.
Donc, j'ai pas de souvenir, donc je vais essayer d'en inventer un.
Alors sache que j'ai pas non plus de souvenir de sa naissance, vu que c'était le 9 mai 1968 et qu'a priori je n'étais pas née. Personne autour de cette table, à part Younes, n'était née.
Mon papa, il n'était pas né non plus. Si, il était né.
Non, c'est pas vrai. Le papa de Chloé a 13 ans. Hein, donc, voilà.
C'est pas impossible parce que moi, ma maman, elle est née en 60 et j'ai 8 ans de différence quasiment avec Chloé.
Avec ta mère ?
Peu importe. Donc, née le 9 mai 1968, passons aux choses sérieuses.
Oui, c'est en Guadeloupe qu'elle est née, à Basse-Terre. Elle vit avec sa grand-mère.
Éléonore.
Éléonore, non.
Comme ma grand-mère.
Elle est plutôt au sud, du coup, oui. Guadeloupe. Et,
ça commence très fort. Donc tout est permis ce soir.
Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que elle vit avec sa grand-mère sans trop demander pourquoi elle n'est pas avec ses parents, sans trop comprendre pourquoi. Enfin, elle ne sait pas que ses parents sont divorcés, elle ne comprend pas ça. Et les traumatismes, peut-être son manque de communication aussi, commencent aussi de là, vu que quand tu commences à savoir à 20 ans que tes parents sont divorcés depuis 20 ans, il y a peut-être
oui, un
problème.
Un petit traumatisme.
Un petit manque.
On le dira jamais assez d'ailleurs, la communication c'est le secret d'un couple stable, d'une famille stable, d'une amitié stable et de l'harmonie dans le monde.
Et suivez notre podcast 23h sur le couple.
La communication
famille
dans le couple.
Patrie. Donc voilà, donc, oui, donc Guadeloupe.
Elle est plutôt dans une forme de mutisme dans sa jeunesse.
Elle est plutôt dans une forme de mutisme tout à fait. Et niveau sport, en revanche, c'est pas mal. Elle commence pas par l'athlétisme, elle commence par le basket.
C'est là où elle s'exprime, si je puis me permettre.
Tout à fait.
Elle s'exprime par le sport. Donc effectivement, le basket, elle commence dans sa scolarité à faire du basket et elle est plutôt reconnue là-dedans. Et puis elle a une prof.
Une prof de PS.
Voilà, Marie-Hélène Soual, qui voit son potentiel en tant qu'athlète et coureuse et qui va la mettre sur les pistes. Et ça cartonne.
Exactement. Elle dira d'ailleurs, c'était déjà quelqu'un de très introverti, qui ne parlait pas beaucoup, se souvient-elle. Elle pouvait même avoir des réactions très agressives vis-à-vis des gens qu'elle ne comprenait pas. Donc cette prof qui décèle son potentiel analyse aussi assez bien sa personnalité finalement à ce moment-là.
Ce que diront la plupart de ses entraîneurs, c'est quand même une chose qui va se répéter, à savoir ce mutisme, à savoir le manque de communication qu'elle aura face à certaines épreuves. Elle qui peut-être aura tendance à fuir plus.
C'est intéressant, ça bougera pas beaucoup ça. En tout cas, ça rejaillira à divers moments de sa carrière.
Son enfance, qu'on a brièvement évoqué, explique beaucoup son caractère. C'est pas quelque chose de volontaire. Elle ne se protège pas.
Oui.
C'est un fait naturel en fait.
Comme toi, Younes, un fait naturel.
C'est vraiment on fait la psy.
Ouais, on
la
est dans l'introspection.
On commence dans le dur.
Alors ensuite, Marie-Jo, elle va rejoindre l'INSEP.
Exactement.
C'est l'Institut National
du sport,
que l'on
de l'expertise et de la performance.
Ouais, et des facochères.
Non, mais c'est là où se retrouvent les meilleurs jeunes français.
Ouais.
Et elle est dirigée par un entraîneur qui s'appelle Fernand Hurtubise, qui est assez connu parce qu'il formera d'autres champions français.
Comme Christine Aron.
J'adorais Christine Aron. J'étais fan de Christine Aron. J'étais fou amoureux de Christine Aron.
Qui était ministre de l'Intérieur.
Oui.
Exactement.
Et donc
elle rejoint ce groupe et elle doit aller à Paris.
Oui.
Et ça, on n'en parlera jamais assez. D'ailleurs, on va le dire.
Bah oui, c'est dur quand même.
On va pointer du doigt ce problème-là. Oui, on va en parler grâce à toi, Thibaut.
C'est pas allégé, alors il faut vraiment en parler.
Non, mais c'est dur. Elle a quoi? Elle a 18 ans à l'époque, quelque chose comme ça?
Ouais, c'est ça, peut-être même moins. Non, c'est ça, 18 ans. Ouais.
Elle quitte ses Caraïbes pour arriver en métropole. Et Paris, franchement, c'est l'extrême opposé, quoi.
T'es dans une ville pourrie, il fait froid, tu dois t'entraîner toute la journée, t'es plus avec tes amis, plus ta famille.
Les athlètes sont plus vieux.
En fait, elle a une vieille chambre, elle est dans sa chambre à Joinville, et c'est elle qui le dira. Vraiment, elle a l'impression d'être traitée comme une pauvre petite fille noire sans argent. Elle a le mal du pays. Et là, elle commence déjà à vouloir arrêter. Déjà que tous les ans, je crois que c'est très compliqué.
D'ailleurs, elle va plus ou moins finir par mettre sa carrière entre parenthèses, et elle va se trouver un nouvel entraîneur qui va... pour le coup, être peut-être un peu plus fin psychologue avec elle et réussir à faire en sorte qu'on puisse vraiment bosser et qu'elle puisse s'accomplir en tant qu'athlète.
Ouais, parce que Fernand, il disait, on sentait qu'elle voyait la société comme un rassemblement de bêtes féroces dont il fallait se protéger. Quand elle arrivait à l'entraînement, elle allait se blottir au pied d'un mur, elle parlait pas, n'arrivait pas à savoir ce qu'elle avait sur le cœur.
Franchement, moi j'ai cru que c'était Fernand. Alors, moi je ferme les yeux, je vois Fernand, je sais pas vous.
Déjà, ça me donne une indication, c'est que Fernand vient des Vosges, de Moselle.
Moi j'étais plus sur l'accent bourguignon. Mais
d'accord, on n'est pas si
loin. C'est vrai que c'était pas trop l'accent alsacien, donc oui.
Fernand, il bugne la bagnole, visiblement.
Après, on y est,
Elle va quitter Fernand pour François Pépin.
Oui, donc elle rejoint François Pépin, qui est un entraîneur que son petit ami de l'époque, qui a un nom, il s'appelle Richard Nana Douanang, qui est également athlète, qui lui présente. Et là, ça va un petit peu mieux. En 88, elle bat le record du France de 400 mètres, et un record de façon qui n'appartient qu'à elle, qu'elle ne cessera toute
de
sa
le
vie,
repousser à
de
fois.
Le battre à chaque fois. Donc voilà, à l'époque, le record, alors c'est preuve qu'elle aussi, jusqu'à 96, ses foulées sont incroyables, parce qu'à l'époque, le record de France, c'est 51-35.
Qui est déjà pas mal, mais...
51 secondes, 51 minutes, c'est quand Younes le
fait. Ça, c'est en 88, le record en 88, et le record en 96, tu veux le dire maintenant?
Oui, 48-25.
Plus de 3 secondes de mieux.
Ouais. 3 secondes de mieux, ouais.
Et oui,
c'est énorme.
Donc Marie-Jo commence à battre des records, et elle va participer à ses premiers JO à Séoul en 1990.
Non, en 88.
88, pardon. Ouais, et elle va échouer en quart de finale. Oui, c'est ça, 88, pardon. Elle va échouer en quart de finale, mais c'est quand même le début d'une prestigieuse carrière qui va exploser en 91.
Ouais, c'est pas mal parce qu'elle est quand même jeune en 88, donc c'est un premier passage au JO. Ensuite, il y a des premières participations au championnat d'Europe en salle où elle va gagner un premier titre. Donc on voit qu'elle monte réellement en puissance.
À savoir que c'est un peu des disciplines qui se confrontent entre le indoor et le outdoor. Et effectivement, les performances sont un peu...
Tu peux nous traduire, Younes ?
Alors, quand on est indoor, en fait, on est en train de courir en fait, dans une salle.
Dans l'intérieur.
En intérieur, voilà.
Tout et dans l'outdoor.
L'outdoor, on est à l'extérieur, dans un vrai stade. Voilà. Et ça modifie les performances parce que l'accroche de l'air n'est pas la même.
Tout à fait.
Mais tout de suite, quand on a quelqu'un de bilingue, ça change tout.
Eh bien oui, eh ouais, oui.
C'est bien plus simple.
Et donc en 91, année charnière, Younes, parce qu'elle change d'entraîneur.
Encore,
ouais. C'est un peu le Xavier Gravelin de l'athlétisme.
C'est Jacques
Malherbe.
Je suis un peu triste qu'on n'ait pas une citation de Jacques parce que Chloé aurait pu nous faire une nouvelle imitation talentueuse.
Moi, je suis prête.
On peut en inventer une. Oui, c'est Jacques Piacenta qui est bien né et qui donc s'occupe de Marie-Jo, qui va bien s'occuper d'elle. Elle gagne le titre de championne d'Europe à Francfort,
ouais, sur 400 mètres.
Sur 400 mètres, où elle rebat le record de France. Alors, je ne sais pas combien là, je n'ai pas l'info, je ne m'en souviens plus, désolé.
Elle revient de blessure, déjà.
Oui, elle revient de blessure, déjà. C'est vrai. Et arrivent les championnats du monde, où elle est quand même...
qui ont lieu à...
Tokyo.
Elle n'est pas favorite,
non.
Mais elle pourrait avoir confiance en elle sur ces championnats du monde. Ce que va faire Marie-Jo Pérec, c'est qu'elle ne va pas avoir confiance en elle car elle n'aura pas jamais vraiment confiance en elle. Et surtout, elle va arriver avec, en ayant un petit peu peur, en ayant, en se disant,
alors, c'est après, ce que je vais réussir. Mais on ne peut pas lui en vouloir d'avoir un peu peur.
Ça, non. C'est sa première, c'est normal.
L'angoisse peut-être des débuts.
Ouais,
on va voir.
Puis moi je pense que même si j'étais championne de 400 mètres et que j'avais gagné 6 fois, je continuerais à avoir un peu peur. Hein.
Après, c'est ouais. Nature, justement. Et sa nature, on va le voir plus tard, c'est quand même quelqu'un d'assez stressé.
Ouais, c'est ça.
Qui somatise aussi beaucoup.
C'est des migraines avant les courses et elle vomit après les courses. Mais
c'est vrai.
Normalement,
c'est
quelqu'un qui somatise énormément.
En tout cas, c'est championnat du monde de Tokyo. Elle est donc en concurrence sur le 400 mètres, notamment avec Grit Breuer, qui est une Allemande.
Bien joué.
Championne du monde en titre.
Oui.
Elle est au couloir 4, Marie-Jo, pour la finale, devant Breuer. Donc, c'est jamais terrible d'être devant parce que tu vois pas ce que fait ton adversaire.
Qui se cale de lièvre.
Oui, voilà.
Qui se cale sur toi, voilà.
Exactement, un lièvre.
Tu peux gérer ta course par rapport au champion de
devant. D'ailleurs, Gilles Breuer avait des oreilles comme ça. Et,
mais voilà. Finalement, Grit, elle a. Ou
Grit Breuer.
Elle arrivera jamais vraiment à voir Grit devant elle parce que personne la dépasse.
Parce que ça reste un lapin, Grit, quand même. Donc,
exactement.
Bon, on peut pas non plus.
Elle va gagner en 49 secondes 13, nouveau record de France.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là vraiment que naît son surnom, la gazelle.
La gazelle, la foulée, et légendaire. Que,
exactement, monstruis, la foulée. Combien la foulée?
2,50 mètres,
vous imaginez.
2,50 mètres, c'est vraiment monstrueux.
Vous, chez vous, essayez, prenez 2,50 mètres et tirez-les au sol.
Et je vous propose donc d'écouter plusieurs athlètes français, notamment Aurélie Chaboudès, Farah Anakarsis, je me suis pris que des noms faciles, Quentin Jamier, Gany Yalouz et Muriel Ortiz, qui reviennent sur cette fameuse course qui évoque un peu leurs souvenirs de Marie-Jo.
Dès le début, elle est déjà devant et elle a vraiment beaucoup d'assurance. C'est ses jambes qui m'ont impressionné parce qu'on a l'impression qu'elle ne force pas et que tout est naturel chez elle.
C'est sa finesse, sa façon de courir. Elle est tellement fluide, ça a l'air tellement facile ce qu'elle fait. C'est magnifique, quoi.
Marie-Jo, pour moi, la plus grande des championnes qu'on ait pu avoir en athlétisme.
C'est sûr que ça donne envie, même de courir. Quand je vois des courses comme ça me donne envie direct de mettre les pointes, de courir.
On a envie de vivre ça, on a envie de se retrouver à cette place pour ressentir les mêmes émotions parce que c'est une concrétisation d'un travail. Regarder des vidéos comme ça, ça peut redonner le moral dans des moments où il n'y est pas forcément.
Ces images, elles ont pu être un déclic pour moi.
Bien sûr que c'est un exemple pour moi.
Oui, pour nous c'est un exemple.
C'est beau quand même cet hommage.
C'est assez dithyrambique.
C'est magnifique.
D'athlète.
Elle donne de la confiance aux autres.
C'est
ça qui est puissant en fait. C'est qu'au-delà de sa foulée qui est impressionnante et qui du coup fait que le monde entier la découvre, elle arrive à communiquer aussi en fait un truc assez positif.
Et donc elle est championne du monde. Elle explique elle-même hein, que c'est un mélange de bonheur et de stress. Oui. Donc ça l'accompagne toujours, même quand elle gagne, ce stress l'accompagne.
Alors sur deux choses en fait, c'est que l'événement en fait, elle l'a géré plutôt de façon curieuse, c'est qu'en même temps il y avait cette découverte dans un pays qui est très lointain.
Bien sûr.
Et en même temps il y avait ce stress et cette pression de réussite. Et du coup, ces deux effets mélangés n'ont pas forcément traduit en fait un échec, mais quand même une frustration et un stress.
Une forme de mal-être quand même.
Oui.
Et après cette victoire, direction un nouveau défi, les JO de Barcelone en 1992.
Ce gros morceau.
Alors là, Marie-Jo, elle a un statut quand même un peu différent que pendant les championnats du monde. Là, ça y est, elle est...
Elle est championne du monde.
Elle est favorite.
Elle fait forcément partie des 4-5 voilà. filles qui peuvent gagner la course. Donc c'est d'autant plus difficile à assumer quand on arrive à des Jeux Olympiques où la pression médiatique est énorme.
D'autant plus qu'en fait, dans une course, en règle générale, si l'exploit n'est pas net et que on ne sait pas si on peut réitérer l'exploit, en fait, s'il n'y a pas une franche domination.
Oui, elle se prépare bien pour cette année justement de JO. Elle établit la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 mètres. Pour l'instant, on est sur du 400 mètres.
Plat.
non, en montagne en fait. Elle avait des crampins.
Le 400 mètres boss.
Le 400 mètres boss.
C'est en opposition au et les enfants. On dit 400 mètres plat.
Le 400 mètres.
Ah, gna.
Mais oui, on sait. On te taquine, Thibaut.
C'est le problème de travailler avec des cons. D'ailleurs, je vais
Et du coup, c'est au Nikaya de Nice. Elle fait 49,50, ce qui est la meilleure performance mondiale de l'année. Le Nikaya de Nice, ça n'existe plus, mais c'était une compète annuelle en juin au Palais des Sports. Voilà, c'était histoire d'être précis. On nous le reproche parfois. Nous sommes précis.
J'ai cherché la boîte et j'ai jamais trouvé.
Laquelle boîte
elle la Nikaya.
Elle n'existe plus.
Je partais pas avec les mêmes objectifs que Marie-Jo.
Ouais.
Et donc, au JO, une fois qu'elle est là à Barcelone, globalement, les qualifs se passent super bien. Hein. Enfin, elle a l'air de dominer quand même.
Elle est au top. Elle est au top puisque en demi-finale, elle rebat la meilleure performance mondiale de l'année dont Olivier parlait. Il parlait de 49,50. Elle fait la 49 secondes 48. Donc vraiment, elle est au top. Se qualifie pour la finale. On se dit, ça va être finalement.
Du gâteau.
Sauf que je sais pas si on l'a dit, mais elle est un peu stressée, Marie-Jo.
Ah bon ?
Du coup, elle vit pas très bien. Et l'exemple de la course, du coup, parce que déjà, elle arrive, t'as l'impression que tout son corps est tendu, c'est un arc. Vraiment, c'est un arc. J'aime beaucoup cette image.
Oui, non, c'est bien, c'est une belle image.
Est-ce qu'on peut parler du tir à l'arc, s'il vous plaît ?
On en fera peut-être un jour. En plus, on connaît tous très très bien le tir à l'arc.
Ouais.
Donc c'est
moi,
formidable.
Je suis une spécialiste.
Ouais. Tous les week-ends dans le
Mais le tir à l'arc plat.
Et c'est comme ça que Sarah est devenue la nouvelle voix de PO. Hein.
C'est grâce.
Mais elle est championne régionale de Poitou-Charentes, hein, faut savoir ça.
Et déjà, du coup, la veille, elle arrive pas à dormir. Alors ça, c'est un truc que
la veille de la finale, ouais.
Veille de la finale, elle arrive pas du tout à dormir. Elle zone un petit peu sur le port. Elle a une alimentation de ouf parce qu'elle est à la pizza et au coca.
Ça me fait rire qu'elle bouffe.
C'est vrai, mais c'est un peu du Usain Bolt.
Pizza, coca, avant la finale.
À mon avis, c'est psychologique et c'est une part de plaisir que tu t'accordes certainement la veille. Alors, j'ai aucune info sur son régime alimentaire au quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle brûle énormément.
Cassoulet, j'imagine, enfin, quelque chose comme ça.
Voilà, du cassoulet. En tout cas, elle brûle énormément parce qu'elle a le physique pour le faire.
Mais elle a le stress pour le faire aussi.
La pizza et le coca, je pense quand même que c'est une parenthèse de
c'est
plaisir que tu t'accordes. Ouais,
oui, puis je pense que si t'arrives pas à dormir, tu te fais plaisir au bout d'un moment.
Et alors, elle a aussi du stress parce qu'on la compare à une ancienne championne qui s'appelle Colette Besson.
Mais oui, tout à fait. C'était en 68, c'était à Mexico.
Elle a gagné.
Et qui avait gagné le 400 mètres à ce moment-là.
Contre temps,
68, ça fait un bail. Hein. C'était son année de naissance, tiens, j'y avais pas pensé.
Ah, c'est beau.
Quel clin d'œil du dessin.
Et en plus que ça, au moment où elle va s'élancer, on se rend compte qu'elle est sur le couloir, au couloir numéro 5, donc
le même que Colette,
la coquillette. Ouais,
ouais. Le destin. Et alors, est-ce que vous pouvez me donner, pas forcément toutes, mais ces deux, trois principales, peut-être concurrentes.
Il y a du monde.
Il y a des gens intéressants quand même.
C'est un très beau plateau.
Il y a une américaine, Rochelle Stevens, qui a donné le nom à une ville, à un port français.
Bien sûr.
Il y a bien sûr Sandy.
Quand elle l'a conquis. Avec ses caravelles.
Il y a Sandy Richards, qui est une jamaïcaine.
Ouais, donc toujours en kikineuse.
Phyllis Smith, qui est très loquace devant la caméra.
Ah oui,
elle raconte
Smith,
sa vie. Alors ça,
c'est marrant, vous voyez, quand au début de la course, on montre chaque joueuse et on les présente. Mm-hmm. Et donc elles sont toutes hyper concentrées. Marie-Jo, comme tu dis, elle est hyper tendue, etc.
Ça parle beaucoup.
Et genre ouais. La britannique, elle raconte quelque chose, elle se marre
un peu.
Fin...
Elle fait des marionnettes.
Ah ouais.
elle a guignol, elle fait son petit spectacle.
Et chacun sa façon de gérer
elle
le
mime.
Stress.
Oui. Exactement. Elle fait des mimes, le mime Marceau, avec la vitre.
Elle exorcise, je pense.
Elle a des chaussettes au bout des mains.
Non, mais alors, ça, c'est. Alors, une petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a un truc qui fait partie de l'ambiance des JO en général, c'est justement cette caméra qui vient face caméra. Et on connaît tous Usain Bolt et son assurance.
Bien sûr.
On connaît tous Linford Christie qui regarde dans le vide et qui a l'impression d'être de se transformer en félin. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont assez mythiques. Et Marie-Jo, de son côté.
Et bien sûr.
Il y en a deux, surtout, à part
celle qu'on a déjà dite.
Phyllis Smith. Il y a Ximena Restrepo, qui est une Colombienne et qui est assez proche des temps de Marie-Jo Pérec cette année-là. Mais surtout, il y a Olga Brizgina. Et Olga, elle est pas là pour équeter des haricots verts. Et j'écris sur mes notes.
Elle a un CV énorme.
Oui.
Elle est championne du monde en 87, championne olympique en 88. Donc elle a gagné les deux principales médailles à gagner.
Mmh. Pour vous elle dire est sortie que... du terrus de sa mère en courant, de toute façon, Olga.
Exactement. C'est tout à fait ça.
Donc c'est un peu entre les deux qu'on attend le gros clash, la grosse confrontation. Et donc c'est enfin l'heure de la finale. C'est le 5 août 1992. Le stress se lit vraiment sur le visage de la plupart des joueuses. En plus, ça met un peu de temps à décoller.
Oui, c'est incroyablement
long. C'est très long, c'est très stressant. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette course qui commence pas forcément ultra bien pour Marie-Jo?
Non, elle fait pas un super départ, Marie-José Pérec. Après, elle fait pas des super départs non plus, de toute façon, avec sa foulée.
C'est une constante.
C'est une constante.
Son style apporte ça, ouais.
Mais on la sent. Enfin, au départ, c'est vrai. Je sais pas, moi j'ai écouté avec Montiel. Je sais pas si c'est Montiel à l'époque déjà qui faisait
depuis 1965.
c'est vrai qu'on la sent lourde, empruntée sur les 100 premiers mètres, quoi.
Le départ est compliqué, elle a de très longues jambes, donc le temps du déploiement en fait est un peu plus emprunté, forcément. Les 100 premiers mètres ne sont pas à son avantage, quelle que soit la course.
Oui, et pourtant, elle va se reprendre peu à peu.
C'est pas donné, parce que quand même, dans le virage, elles sont 5 sur la même ligne. Ouais. C'est-à-dire que Marie-Jo Pérec n'arrive pas du tout à dépasser les autres concurrentes. Et c'est même à la sortie, c'est Brizgina qui est devant. Donc, pas longtemps, mais c'est quand même Brizgina qui est devant. Et on se dit que ça va être très très chaud. Il y a la dernière ligne droite à gérer.
Et là, Marie-Jo va déployer un effort incroyable sur la dernière ligne droite pour pouvoir passer devant. Et être sacrée championne olympique en 48 secondes 85.
Ouais. Nouveau record de France.
Yes. Un énorme temps.
Elle rejoint Colette 85. Dans le Panthéon.
Exactement, c'est beau. Hein. Et on lit sur son visage beaucoup de joie, aussi beaucoup de soulagement. Ses années de travail, de solitude quand même en France, ses efforts, enfin en métropole, ses efforts ont payé. Marie-Jo est devenue une star là pour le coup. Ça y est, là on.
Et Olga la félicite.
Olga la félicite, c'est très émouvant, c'est toujours très beau
l'image. Ouais,
c'est l'image.
On dit toujours qu'on vous mettra les images, mais on vous mettra les images.
Et elle accède vraiment au statut de star, statut dans lequel elle n'est pas très très à l'aise. Hein. Si vous regardez des interviews de Marie-Jo, elle n'a jamais l'air d'être ultra à l'aise devant les caméras.
C'est pas Usain Bolt, elle n'est pas faite pour le show.
Et c'est une telle star qu'elle va être invitée à faire quelque chose que peu de Français
peuvent
se targuer de faire. Ah, j'aimerais tellement. Elle va être invitée à pousser la chansonnette avec Dorothée. On vous met cet extrait. On n'est pas sûr qu'ils nous mettent à 100% à l'aise.
J'étais amoureux de Dorothée, moi.
Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que lui, reste tout près de lui. Oh, maladie d'amour. Maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que lui, reste tout près de lui. Quand l'amour est petit, si joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous des amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. Wow, n'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. Si tu n'aimes que lui, reste tout près de lui. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que lui, reste tout près de lui.
Ça, ça me donne bien envie de courir.
Alors, la séquence, pareil, on vous la remettra. Elle est ultra malaisante.
Franchement, c'est, moi, je sais pas.
Non,
ce qu'il faut pas faire, franchement, quand t'es ça, un peu star.
Tu sens qu'elle est là contre son gré. Ah, t'as Dorothée qui essaye un peu de la regarder.
Alors,
déjà, Dorothée.
Non, non.
Non, mais elle. Mais de quoi t'es pas d'accord?
Je suis pas d'accord.
De quoi?
Tu n'es pas d'accord. C'est une émission pour enfants. Voyons.
Non, mais c'était juste que elle, la pauvre, elle se demande ce qu'elle fait là.
Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Et ça se voit. Elle regarde le prompteur. Enfin, c'est très, très dur, quoi.
En tout cas, je pense que la conclusion, c'est que Marie-Jo est meilleure coureuse que chanteuse, même si elle se débrouille pas si mal, enfin comparé à moi en tout cas.
Ouais, ça va,
c'est pas si mal.
En tout cas, la saison se termine bien puisqu'elle va établir sa meilleure performance personnelle sur une autre distance, sur le 200 mètres.
Ah. 200 mètres plat ou 200 mètres bosse?
200 mètres, je vérifie mes fiches.
Avec un arc.
Avant de remporter la Coupe du Monde d'athlétisme de la Havane sur cette distance, de quoi lui donner quelques idées pour la suite.
Oui, et 200 mètres, c'est pas une mince affaire parce que c'est vraiment très différent. Les deux disciplines, en fait, ne se ressemblent pas.
Et Marie-Jo va se dire que va avoir l'idée de se dire maintenant que j'ai fait le 400, peut-être je peux faire le 200.
Je peux faire les deux.
Et alors, peut-être qu'on peut dire quelques mots. J'ai besoin de vos lumières. Je sais que vous êtes des fins techniciens, surtout toi, Younes. On va pas trop s'étaler dessus, mais peut-être dire un peu quand même que courir un 400 mètres, c'est pas tout à fait pareil que courir un 200 mètres, c'est deux fois plus long.
On a exprimé tout à l'heure, en fait, dans sa course des JO de Barcelone, la difficulté qu'elle avait au démarrage.
Oui.
Et effectivement, c'est lié aussi à ses proportions physiques, en fait, tout simplement. Elle a de très grands bras, de très grandes jambes qui lui donnent un certain avantage vers la fin.
C'est le corps en échasse, donc.
Non, et puis ce qu'il faut dire, c'est que le démarrage, il va être beaucoup plus important finalement. Enfin, il est toujours important, mais il est d'autant plus important sur un 200 mètres qu'un 400 mètres.
Votre explosivité va être plus récompensée sur un 200 mètres.
C'est ça. Et la course est forcément plus courte. Et surtout, en fait, ses mouvements d'épaule et ses bras l'entraîne vers la ligne. Et alors, si elle dépasse la ligne, elle est éliminée.
Oui, et ça va lui arriver plus d'une fois. Hein.
Oui, et c'est son péché mignon. Et en fait, des fois, on peut même voir sur certaines images, on a l'impression qu'elle court sur la ligne, en fait.
Et alors, faut même pas la toucher, c'est
non.
ça
Non, c'est ça.
Pas la toucher du tout. Et en fait, l'effort qu'elle fait physique pour résister à la force centrifuge.
Oui.
Voilà. Oui, c'est ça.
Et c'est un effort intérieur avec une musculature intérieure qui fait que elle essaie de retenir son corps pour ne pas sortir. Donc, c'est déjà de l'énergie qu'elle perd.
Et encore plus quand tu as des grandes foulées de 2,50 m, c'est-à-dire que ta jambe, elle peut encore plus être propulsée proche de cette ligne, voire sur cette ligne.
Elle est plutôt mince, elle est bien sûr athlétique, mais elle est plutôt mince, elle n'est pas surdéveloppée musculairement. Et la compensation ne le fait que grâce à ses grands axes quand elle arrive à se redresser après le virage.
Et donc, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que sur un 400 mètres, en fait, il faut un peu allier à la fois les qualités du sprinter.
Et
puis quand même arriver à garder une forme d'énergie, ne pas tout donner sur les 200 premiers mètres pour garder l'énergie à la fin. Et ce qu'elle fait d'ailleurs, elle rattrape souvent ses concurrentes sur la fin, Marie-Jo.
C'est ce qu'elle fait plutôt naturellement. C'est pour ça que c'est plutôt une coureuse de 400 mètres au départ. Oui. Et pour aller sur du 200 mètres, il faut qu'elle travaille plus d'explosivité. Donc, ce n'est pas les mêmes méthodes d'entraînement.
Sur le 400, elle avait un avantage aussi psychologique. C'est qu'elle avait une énorme force mentale. Elle puise dans l'endurance qui est nécessaire pour gagner un 400. Et cette force mentale, en fait, lui fait prendre une grande distance. Sur le 200 mètres, c'est bien plus court. Et c'est un peu la mécanique de son corps, en fait, qui fait le travail.
Moi, j'ai un peu l'impression qu'en plus, ça se joue souvent à l'inverse. C'est plutôt les coureurs de 100 mètres qui vont sur du 200. J'en vois souvent moins de 400 qui viennent sur du 200. Alors, j'ai la science infuse, mais j'ai l'impression. Dans mes souvenirs récents, tu vois, les Lemaitre, les Bolt et compagnie,
c'est plus naturel, même si Michael Johnson, il avait fait l'inverse. Il faisait 400-200. Mais
le fait de faire une multidiscipline n'est pas forcément donné à tout le monde. L'exemple le plus récent et moderne que l'on ait, c'est Carl Lewis qui a participé à beaucoup de disciplines différentes et qui a excellé. Donc c'est en ça où on lui
le basket, le saut à la perche.
Voilà, tout à fait, le curling. Le fameux.
Ça, on le voit quasiment plus. Il faisait même du saut en longueur en mettant du sang.
Et là, c'est quand même en fait assez incroyable qu'elle décide justement de passer d'une discipline un peu plus de fond, donc une course de fond. En partie,
semi-fond
en partie vers la fin notamment, vers une course de quasiment pure vitesse.
Moi, j'aime bien ta phrase un peu paradoxale de, elle a une grande, un super mental au moment où elle court, qui dénote vachement avec ce qu'elle est naturellement.
Dans
en
la
fait.
Vie.
C'est
dans
quelqu'un
la
qui doute énormément, mais en fait, à partir du moment où elle court, elle a plus aucun doute, elle a plus aucune pensée, elle fonce, elle fonce, elle fonce. Et je trouve ça fou.
Oui, c'est une bulle, c'est ça, de la sportive. Une fois que le starter a retenti, elle est,
elle est
meilleure que les autres.
Et... Oui, elle est transformée. Oui. Ouais.
Et donc c'est voilà, donc là, Marie-Jo s'attelle à une tâche assez difficile et ça va pas forcément très bien se passer tout de suite, puisque elle veut aller au championnat du monde de Stuttgart, mais elle va se blesser lors d'un meeting. Elle va quand même arriver à Stuttgart, mais elle ne va finir que quatrième de la finale. Notamment, c'est Merlène Hautet, je crois, qui va se détacher et terminer première.
Oui, exactement. Elle se rend compte encore du chemin à parcourir pour devenir une vraie grande championne de 200 mètres.
Il y a encore du travail à faire. Et c'est là que va s'opérer un changement assez radical dans sa vie, même si c'est un changement qu'on a déjà vu et revu, mais elle va à nouveau changer d'entraîneur en 94. Mais elle va pas non seulement changer d'entraîneur, mais elle va aussi quitter la France. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette histoire?
Déjà, ça sous-entend qu'elle quitte le ministère, Chloé.
elle doit rendre son portefeuille.
J'ai été bouleversée à ce moment-là.
Oui. Non, en effet, elle va partir s'entraîner aux États-Unis avec le groupe HSI, qui est Hudson Smith International, d'un entraîneur fameux et sulfureux qui s'appelle John Smith, qui était lui-même un coureur de 400 mètres.
Oui, donc... après avoir envahi les Amériques pour Pocahontas. Oui.
Je sais que tu voulais la placer.
On savait que
j'en ai d'autres qui arrivent après.
On est vraiment dans l'ordre de la multinationale du sport avec des grands champions. Maurice Greene à Toboldon. Elle prend une autre dimension en allant s'entraîner là-bas.
Et bizarrement, en fait, on aurait pu croire qu'elle avait besoin d'être encore plus protégée, etc. Mais au contraire, arriver dans ce gros truc, d'être une athlète parmi les autres, ça va la rendre de nouveau un peu anonyme. Aux États-Unis, on la connaît pas forcément autant qu'en France. Et cet anonymat a l'air plutôt de lui faire du bien, de ce que je comprends.
Au départ, en tout cas, elle est entourée par tous ces grands champions. Elle a ce truc un peu pas si personnel que ça à l'américaine. Pensez positif. Vous inquiétez pas, les autres dorment. Nous bossons. Et nous, c'est voilà. Ça, ouais. Avec soi-disant cette proximité du sportif, mais en fait, c'est une espèce de gros conglomérat, comme on les aime à l'américaine. Mais du coup, elle, ça va être un peu son cocon, dans le sens où on va lui foutre la paix. Et ça, elle va plutôt bien apprécier.
Oui, d'ailleurs, quand elle retrouve la compétition, elle retrouve le 400 mètres en compétition, et elle remporte le seul titre qui lui manquait, puisqu'elle devient championne d'Europe à Helsinki. Oui. Et sur le conseil de son nouvel entraîneur, en 95, Marie-Jo, elle va se dire « j'en ai marre du 400 mètres plat, je passe au 400 mètres boss. » Non, voilà.
Et elle a raison.
À Göteborg, ouais, en 95.
Donc non, elle passe au 400 mètres haies. Qu'est-ce que c'est le 400 mètres haies? C'est un 400 mètres, mais dessus, tu as 10 haies à franchir.
Donc 10 obstacles.
Obstacles, sans quitter ton couloir.
La foulée est très technique. Ça demande effectivement encore une autre qualité qu'elle va développer.
De la fréquence.
Une fréquence et que son entraîneur a décelé en elle. Et tout simplement, ils ont travaillé ça parce qu'elle avait un avantage physique aussi, là aussi, pour pouvoir exceller.
Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut toucher les haies, on a le droit, mais forcément,
de les faire
ça fait perdre du temps.
On peut même les faire tomber.
Par contre, on n'a pas le droit de toucher la haie, enfin Jean-Luc, parce que sinon là,
on passe une mauvaise enfant.
Mais lui, il a le droit de toucher.
Seulement de moins de 18 ans.
Excusez-moi, mais Brigitte, elle a le droit de toucher.
Tout à fait.
En tout cas...
Excusez-moi, j'ai complètement foiré.
J'apprécie.
Elle va gagner une épreuve de 400 mètres haies.
En Coupe d'Europe, c'est ça.
En Coupe d'Europe, déjà, dès qu'elle a des dispositions exceptionnelles.
Oui, elle est quand même assez incroyable dans le sens où elle c'est un peu nouveau pour elle. Elle gagne à Göteborg, elle va pas gagner le 400 mètres et en revanche
le tir à l'arc
mais je crois que et puis en plus je crois qu'elle elle a une contracture à la cuisse qui l'empêche aussi de courir le haie, mais elle remporte quand même le simple.
Oui, facile, en 49 secondes 28.
Voilà,
il y a déjà Cathy Freeman dont on reparlera
plus tard. Qui est quatrième de cette course,
la ministre des sports
australienne,
mais après je sais.
Mais ce que ça montre, c'est que ce groupe HSI, ça la pousse à aller vers d'autres dimensions, mais elle va quand même arrêter là le 400 mètres et plutôt se tourner vers un doublé 200 mètres, 400 mètres.
Oui, elle veut consolider un petit peu ce qu'elle avait commencé à installer. Je reviens rapidement sur l'anonymat, et c'est vrai qu'en fait, on n'a pas vraiment précisé ça, mais après Barcelone, c'est quand même une superstar en France.
Mais elle était chez Dorothée.
Elle était chez Dorothée. Ouais. Et on mesure pas aujourd'hui l'impact que pouvait avoir le club Dorothée.
Ouais. Ouais,
c'est comme avoir 10 millions
c'était
de followers sur Instagram.
Bah,
c'est clair.
Bah,
il y avait vraiment
Marie-Josée Pérec et Framboisier. Quoi. C'était vraiment les deux
grandes stars de l'époque.
Et donc, du coup, effectivement, aller aux États-Unis pour elle, c'était aussi pouvoir.
Exactement. Elle va quand même établir un nouveau record de France sur 400 mètres haies. C'est quand même pas mal. En 53 secondes 21. Mais effectivement, pour les JO d'Atlanta qui sont en vue pour 96, elle va plutôt se tourner, revenir vers ces 400 mètres et peut-être aussi un peu vers les 200 mètres. On vous en parle juste après la pause musicale.
Elle avait le miracle facile. Dans la foulée, elle a expédié ses affaires commencent. Crudité sur ordonnance, cruauté dans la tourmente, dans la foulée. Dans la Marie-Jo s'en est allée d'aller, les parfums de l'indolence. Elle reviendra si ça lui chante, si elle y pense. De la douche au bûcher, la route est longue, mais la crampole la laisse de l'arbre. Dans la foulée, Marie-Jo s'en est allée d'aller, les vapeurs de sens. Elle reviendra si ça lui chante, si elle y pense. Elle avait le miracle facile, la victoire au bout des cils. Dans la foulée, elle a balayé et la houle et les huées. Dans la foulée.
Toi qui as choisi cette chanson.
Mais bien sûr, et c'est Alain Bachon qui l'a chantée, vous l'avez reconnu
et ben,
évidemment.
Olivier, j'aimerais te dire merci.
Et c'était La Foulée, et c'est une chanson qu'il a écrite spécialement
Pour Marie-Jo.
Florence Artaud.
C'est beau. Non, mais c'est beau quand même.
Ouais, non, elle est très peu connue, cette chanson de Bachon.
Moi, j'aimerais bien que Bachon voilà. écrive une chanson sur moi.
Bah, ça risque.
T'as préféré aller aux toilettes pendant ce temps. C'est pas un hommage extraordinaire.
Oh là là. Et donc, les enfants, nous y voici. Nous sommes en 96. Nous prenons l'avion. Nous allons à Atlanta.
Aux Amériques.
Aux Amériques. Et Thibaut, Atlanta, avec quoi ça rime?
Alors, moi, j'ai prévu de vous parler de Coca-Cola pendant un bon quart d'heure.
Et bien c'est parti. En attendant, on va dormir.
On arrive à Atlanta.
Boit les meilleurs Coca,
c'est dans
ça.
Quel état?
Et Atlanta, c'est la ville de Coca-Cola.
Oui.
La boisson que boit Marie-Jo Pérec la veille de la finale de 92.
Exactement.
La barre de pizza, tout à fait.
Exactement. Non,
alors pourquoi on parle de Coca-Cola? Parce que on a souvent dit que Coca avait acheté les Jeux Olympiques.
Oh, est-ce qu'ils ont fait ça, les méchants?
Pour s'assurer de la pub, une bonne exposition de la marque. Eux, ils répondent non, on n'a jamais fait ça. De toute façon, on est chez nous partout, on n'a pas besoin.
C'est pas faux d'un autre côté.
Quelle réponse incroyable.
C'est une réponse d'une arrogance, on dirait Olivier MPG.
Bien
joué.
Je ne
sais pas si c'est vrai. Mais non, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont filé beaucoup, beaucoup d'argent
forcément.
Pour que ces Jeux soient à Atlanta cette année-là. Et que quelques années avant, quand les Jeux pouvait être à Atlanta, Coca avait dit non et le
ça
projet
pas
a été tué dans l'œuf.
Donc, ouais, donc en gros, c'est Coca qui décide si les JO sont à Atlanta ou pas.
Alors, ouais, en tout cas, ils ont un impact fort. Pourquoi on vous a raconté ça? Ça n'a
aucun intérêt, aucun rapport.
Suite, mais j'avais envie.
Et notre sponsor, en fait.
Oui, il fallait qu'on le... Et c'est quoi votre Coca préféré? Moi, c'est le light, voilà.
Bon. Cerise,
le classique, le vrai.
Est-ce que vous trouvez que la pub qu'on fait pour Coca se voit ou c'est bien placé par rapport au pognon qu'ils nous ont
donné? Tous les gens qui goûter et aimer le Coca-Cola vanille ne sont pas dignes de confiance.
Ah bah ça, je suis bien d'accord.
Il y a eu tellement de gens qui l'ont aimé, ce putain de Coca.
Le Cherry Coke, oui.
Cherry Coke, ça se défend.
Cherry Coke,
ça se défend.
C'est le vrai, le seul, l'unique, l'original.
Donc,
en tant qu'animatrice, je me dois de recentrer les débats.
Merci.
Marie-Jo, dans tout ça, elle en est où en 96?
En 96. Donc 96, forcément, elle est grandissime favorite. L'enjeu est immense pour elle. Elle arrive à Atlanta, elle peut être double, voire triple championne olympique. Chez les Français, c'est rare, encore plus en athlétisme.
Oui.
C'est inexistant en athlétisme, je pense.
Et puis, je crois que sur 400 mètres, il n'y a personne qui a réussi à garder son titre de JO d'affilée. Quoi, donc,
T'as raison, ce qui est énorme. Et là, on ne parle même pas que d'un Français. On parle vraiment de tous les pays confondus.
Oui, et puis hommes et femmes, en plus,
hommes et
je
femmes,
crois.
Ouais. C'est énorme.
Bah oui. Et donc elle est la tenante du titre.
Elle est championne du monde donc 95.
On l'a dit, elle a plus le même statut.
Non, ouais. Ben justement, elle a un rôle particulier dans ces JO. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle est la porte-drapeau.
Ah bah oui, c'est
de
ça.
La France.
Et ça c'est chiant parce que un drapeau que l'on porte sur pendant un 400 mètres, c'est relou parce
c'est
que
relou.
C'est lourd.
Ça prend
avec
le vent,
tu vois.
Ouais, c'est vraiment chiant. Ouais.
Non mais ça fait que t'as des petites obligations un peu diplomatiques, on va dire, supplémentaires.
Oui. Ouais, tu dois quand même te taper une cérémonie d'ouverture qui dure 25 heures. Tu dois répondre à un milliard de questions
Alors,
les médias du monde
entier.
T'as
des caméras partout.
C'est
ce qui la rend jamais à l'aise, on le sait.
Ceux qui courent en général courent pas le lendemain de la présentation.
C'est vrai.
Donc ils ont quand même une bonne grande semaine pour se reposer, mais ils doivent répondre à des interviews, notamment.
Et elle, qui dont on dit qu'elle n'est pas toujours à l'aise avec ce genre d'obligation, elle se prend quelque chose dans la tronche de supplémentaire.
Elle est sous la lumière, ouais.
Et elle va avoir, en fait, pour ce 400 mètres, une seule vraie adversaire. Enfin, ça va être présenté comme ça, c'est le grand duel.
Et Cathy.
Et elles sont assez différentes physiquement, dans leur style, etc. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ces deux femmes?
En opposition de style, il y en a une qui est explosive, un peu petite, tout simplement, et puis qui a une foulée très courte.
1m64.
Cathy Freeman.
Ouais. Alors que Marie-Jo, elle fait 1m80, je crois.
Oui. Ah, 1m80 pour 60 kilos. Ouais.
Ouais, donc on est à plus de 15 centimètres d'écart, c'est monstrueux.
Ouais.
Elle est très longiligne.
Oui,
hein,
voilà. Donc c'est assez facile à comprendre. Il y a vraiment la petite avec les grandes jambes, les petites jambes qui avec des foulées très 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 rapides, et Marie-José Pérec qui va être beaucoup plus aérienne.
Oui. Avec une foulée
qui
fouette le sol et qui lui laisse très peu d'impact en fait sur sa prise.
Elle vole.
Et Freeman, c'est une bonne outsider. Après, elle a pas tout à fait encore.
Pas
le
encore
CV
à l'époque.
Marie-José Pérec.
Cathy Freeman, vous la connaissez peut-être puisque c'est elle qui allumera la flamme olympique.
Oui.
Au JO de Sydney chez elle. C'est une athlète aborigène et ça a été un grand symbole qu'une athlète aborigène.
Certainement un geste politique de l'époque.
Ce sera. ce sera une, la star des JO 2000 et on y reviendra parce que ça, ça joue aussi peut-être.
Oui, oui, bien sûr.
Et puis mondialement, on sortait de l'apartheid en Afrique du Sud aussi. Et donc, voilà.
Ça avait beaucoup, de, voilà,
avait
beaucoup d'impact.
De symboles, ouais.
En tout cas, les séries sont une formalité pour ces deux athlètes.
Oui.
Et en demi-finale, globalement, ça se passe bien pour chacune d'elles dans leur demi-finale.
Les deux font le boulot. Cathy Freeman gagne sa demi-finale. Marie-Josée Pérec lui répond en gagnant elle aussi sa demi-finale.
Et en réalisant le meilleur, la meilleure performance mondiale de l'année, quand même.
Ouais, donc ouais. On est vraiment sur des très bonnes bases.
Elle annonce sa couleur, ouais.
On sait qu'on va avoir droit au duel qu'on a voulu avoir. C'est toujours bien en athlétisme quand les deux athlètes sont au rendez-vous.
Et donc, nous sommes en finale.
Ah ouais?
Cool. Et oui, bravo,
ah,
bravo.
On est en finale. C'est la finale du 400 mètres.
Freeman est à la ligne 4, Marie-Jo à la ligne 3. Donc cette fois-ci, c'est elle qui est
oui,
mieux
placée.
Oui,
c'est le lièvre.
Puisque c'est elle le lièvre. Racontez-moi un peu cette finale.
Et c'est elle qui a le meilleur temps des demi-finales. Donc elle a la priorité aussi pour...
La confiance pour, un peu. Ah oui, et la priorité pour...
Pour les lignes, en fait. Quand tu es le moins bon temps, tu es aux lignes extérieures. Tu
bah
es
oui,
à la 1
oui.
ou à la 8. Quand tu es les meilleurs temps, tu es à la 4 ou à la 3 ou à la 5. Donc,
ou à la 5.
Elle a ce droit-là d'être dans les meilleures lignes.
Marie-Jo, elle décide un peu de gérer différemment cette course, alors qu'à son habitude, effectivement, on lui exprime une certaine lenteur au démarrage, mais
c'est
qui est complètement
ici.
Contrôlée. Là, elle sait qu'elle a une adversaire qui est hyper explosive et qui, si elle prend l'avantage au virage, risque de marquer en fait une distance qui sera difficile à remonter, même pour Marie-Jo. Du coup, elle décide de partir très fort.
Oui, donc elle va partir très vite.
Ce qui est un risque énorme pour elle. C'est d'épuiser ses réserves, en fait.
Et oui. Le deuxième risque, c'est de marcher sur la ligne blanche, parce que plus elle part vite, plus elle fait des foulées longues.
Il faut savoir que je me suis retapé pas mal de courses de Marie-Jo, commentées par Patrick Montel.
Ah, oui.
Il le dit, alors si t'as pas compris que Marie-Jo tape la ligne blanche de temps en temps, là tu le comprends. 8 fois en 15 secondes dans les débuts de la course, il le dit. Hein.
C'est impressionnant, ouais, c'est vrai.
C'est vrai. C'est
mais lui, en fait, effectivement, le dit comme ça, et ça a l'air d'être un peu... gaguesque quand il le répète 8 fois, sauf qu'en réalité le fait qu'elle décide de partir de façon explosive, ça lui fait prendre encore plus
ce risque là
ouais.
Et donc globalement Marie-Jo va assez bien gérer cette course puisque elle a déjà effacé une partie de son décalage avec Freeman quand elle arrive au virage.
Ouais.
Et dans la dernière ligne droite, elle va passer devant.
Ça, c'est génial.
Ouais, ce moment où elle passe devant, mais il n'y a
rien.
Mais Freeman
ne peut pas lâcher. Quoi.
Ouais,
Freeman...
c'est ça, il n'y a rien d'irrémédiable. On se dit pas, là, c'est évident, c'est gagné. C'est vraiment que dans les 15-20 derniers mètres qu'on est sûr que Marie-Josée Pérec a définitivement fait la différence. Donc on avance mano à mano une fois que Marie-Josée Pérec a doublé.
C'est très
Freeman.
Beau et énorme performance de Freeman aussi. Parce
ouais.
que le temps,
ah oui.
du coup,
ouais.
bah alors ça y est, elle a gagné. Bravo,
Marie-Jo.
Bravo.
Elle le ministère ouais avec un temps incroyable
de 48 secondes 25. Et alors il y a donc on n'en a pas parlé du coup avant, qui est le record olympique, quand on différencie record olympique et record
du monde.
Ça peut être les mêmes très souvent, enfin c'est les mêmes, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Et je crois que c'est la quatrième performance
mondiale de tous les temps
encore maintenant.
Oui, tout à fait, ouais.
Parce que le
ouais.
record, en fait, c'est, il ne bougera probablement pas. C'est Marita Koch qui a fait en 47-60. C'était championne du monde 85.
On va en parler un peu plus tard de Marita.
Ouais. Qui était chargée, Marita Koch. Hein,
qui était chargée, ouais. Qui était
apparemment,
chargée.
Oui.
Elle avait beaucoup de valises tout le temps, donc c'était un peu.
Tout ça était lourd. C'est donc un record olympique pour Marie-Jo.
Formidable.
Un record de France pour Marie-Jo. Ça devient la première femme de l'histoire à conserver un titre olympique. Olympique. Nous sommes le 29 juillet, la légende est en marche et le 31
oh, peu cher.
Moi je m'occupe de la Bourgogne, t'occupes du Sud.
Marie-Jo, elle craint des gains.
Qui fait le Nord
On fait du clientélisme régional pour gagner les auditeurs. C'est dans les objectifs de l'année, c'est les KPIs.
Bravo.
Marie-Jo entrera définitivement dans la légende.
Dans la légende.
Écoutez, oui. Et on en parle juste après.
Marie-Josée Pérec, donc, vous le voyez avec le dossard collé sur sa cuisse gauche. Elle est au couloir numéro 3. La dernière fois qu'elle avait rencontré Merlène Otte dans un grand championnat, c'était à Stuttgart, au championnat du monde. L'année où elle n'avait pas fait le 400 mètres, elle avait voulu se consacrer aux 200 mètres. Et ça n'avait pas bien marché pour elle, puisque Torrens, Otte et Privalova étaient devant elle. Elle était en quatrième position. Cette fois-ci, les données sont apparemment différentes. Torrens et Privalova, déjà, sont pas là. Et Marie-Josée Pérec n'a jamais été aussi forte. Marie-Josée au couloir numéro 3, Merlène Autet au couloir numéro 5. Marie-Josée en bleu, Merlène Autet dans les couleurs de la Jamaïque, jaune et vert. Voilà, départ correct de Marie-Josée avec sa grande foulée, mais Merlène Autet est partie très 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 vite. Elle fait un superbe virage, Marlène Autet, Ognali aussi, et Marlène Autet va rentrer en tête. Est-ce que dans la ligne droite, Marie-Josée va pouvoir revenir? C'est pas sûr, car Guidry va également très vite. Et Marie-Josée maintenant qui débarque, qui revient sur Merlène Autet. Si elle va passer, oui, elle va passer. Fantastique doublé, extraordinaire. Marie-Josée Pérec est venue coiffer Merlène Autet dans 30 derniers mètres, sublissime. Fabuleux 30 derniers mètres de Marie-Josée Pérec. Elle avait fait 60 derniers mètres extraordinaires sur 400. Elle a fait 30 derniers mètres merveilleux sur 200. C'est Merlène Autet, la reine, qui est battue.
Et oui, Marie-Jo vient de faire, vous l'avez compris. Elle a fait le doublé en remportant le 200 mètres qu'elle avait préparé assez secrètement d'ailleurs. Oui. Hein. Elle n'avait pas dit qu'elle essayait de revenir sur cette discipline. Alors, on a entendu l'exploit, mais j'ai envie que vous me le re-racontiez. Ah. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a
alors,
vu?
C'était le 200 mètres, Sarah.
Ouais, elle double Roselyne.
C'était le 31.
Et c'est plat.
Et c'est sur...
et là, je vous remercie. Et bien, ce sera tout. Allez, au revoir.
Déjà, Sarah, revenir sur ce que tu disais, elle l'a préparé un peu en douce. Elle
ouais, filoute.
Elle mettre trop la pression.
Et pourquoi, à votre avis? Parce que Marlène est une spécialiste de la discipline. Et du coup, effectivement...
Merlène. Marlène de culture
Marlène,
de l'humanité.
Marlène est très... Oui, oui,
du 200 mètres.
Bah oui, moi, je parlais de Marlène, moi.
Marlène, sa sœur.
Marlène, je n'y a pas beaucoup moins douée.
Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que autant Marie-Josée Pérec est favorite sur le 400, autant sur 200, elle-même a peur d'être ridicule, c'est-à-dire que, alors que bon, arrête à d'autres. Hein,
oui. Moi, je peux être ridicule peut-être sur 200. Oui. Mais pas elle.
Quand tu stresses constamment comme
bah oui.
Enfin, s'il y en a tu ridicules tout le
trois temps. Qui sont pas ridicules, c'est bien Merlène Autet, c'est bien Marie-Josée Pérec et c'est bien Marlène de Culture 2000.
Oui.
Ouais.
Oui.
Et John Smith, son entraîneur, qui elle dira, je vais être ridicule après voilà, 100 ça, mètres, je vais être nul, je vais être la dernière. Il lui dira, non, même après 120 mètres, tu seras toujours la dernière. Pour lui, en fait,
c'est sur la fin.
Sur tes 80 derniers mètres, tes 50 derniers mètres, c'est ça qui fera la différence. Ne panique pas.
Et ça, il aura raison.
Et bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait de jouer contre une spécialiste, enfin de courir contre une spécialiste, et de cacher un peu son jeu sans pour autant déclarer l'envie finalement de la courir, mais surtout de le gagner, c'était la stratégie de l'entraîneur de dire de toute façon ne t'énerve pas parce que plus tard tu démarreras dans la surprise et mieux
t'auras, ce sera
plus t'auras de chances de gagner en fait.
Parce que en face d'elle, Merlène Autet, c'est pas n'importe qui. Sur 200 mètres, c'est une très grande championne.
Ouais, oui. 100 mètres et 200 mètres, énorme championne. Elle a gagné des tonnes de titres. Elle a mis longtemps à gagner des titres. Elle était souvent deuxième, troisième, quatrième.
Oui, et puis elle a trouvé la recette un jour.
Elle a 36 ans en 96. Ouais. C'est pas tout jeune pour une athlète.
Et il lui manque cette médaille d'or aux Jeux Olympiques en individuel. Donc c'est un peu sa dernière occasion, sachant que sur 100 mètres, elle a perdu au millième. Elle a été amenée à médaille d'argent au millième.
Non. Mais ça m'a rendu triste, cette histoire.
Contre Wolverine, là.
Contre Gail Divers. Que vous connaissez peut-être parce qu'elle avait des ongles hyper longs.
Elle était incroyable.
Moi, j'avais toujours peur qu'elle se pète la gueule dans ses ongles. Enfin,
visiblement, non.
Mais moi, je comprends Sarah. J'étais très mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle allait griffer un tableau. Et
alors qu'au final, elle a gagné au millième de ses ongles, peut-être, contre notre Merlène Autet.
T'imagines ? Tu crois que ça compte si tu mets l'ongle en avant, si c'est ton ongle ?
Malheureusement, c'est les épaules. Mais
bon, petite précision sur Marlène Autet.
C'est la favorite.
C'est la favorite.
Oui, mais c'est la favorite.
Quelques années plus tard, elle fut contrôlée positive à la nandrolone.
Ah.
Une contre-expertise jamaïcaine a fait tomber, entre guillemets, ce secret de cette...
Elle était dopée.
Oh,
alors que Marie-Jo, jamais.
Ah ouais,
jamais Marie-Jo.
Jamais. Dorothée.
Jamais elle aurait touché à ça.
Au Coca-Cola.
Et donc, comme on l'a dit, en fait, au top départ, il y en a même... Marie-Jo va partir tellement vite sur le... Enfin, va avoir un départ tellement explosif que même les présentateurs vont croire à un moment, vont avoir un petit doute sur le fait qu'elle a peut-être fait un faux départ, je crois.
Oui, tu as raison, c'est vrai. Il y a ce petit doute, surtout chez Patrick Montel, qui met du temps
à comprendre.
À mais en fait toute la course à saisir ce moment. Donc non, la course démarre, elle est pas favorite, on l'a dit, elle sur les
son départ était parfait en fait, simplement pile, ouais, pile sur le pétard. Et ben après si on peut parler un petit peu de sa course et de ce qu'elle exprime, elle a tendance à être très crispée et ça exprime beaucoup en fait de son caractère aussi. Et ça se détend vers la fin, bien entendu, parce que finalement, elle est sur ses acquis physiques. Mais on voit ses abdos, par exemple, qui sont hyper contractés. Mmh. On voit ses ongles, et, enfin ses doigts, pardon, qui sont hyper tendus, comme l'impression d'avoir en fait une crampe. Mmh. Et son visage, bah, il est hyper fermé au départ.
Mais en fait, c'est comme une sorte de petit diesel, Marie-Jo, finalement.
C'est vrai, le départ, sur un 200 mètres, c'est tout à fait vrai.
Je dirais même.
C'est vrai. C'est un grand diesel.
Elle se chauffe, et en fait, je pense que c'est aussi le fait de se détendre dans sa tête, parce qu'à mon avis, avant le coup de feu, Marie-Jo, elle fait que réfléchir.
Ah, c'est sûr, elle balise énormément.
Et même après le coup, même une fois la course terminée, hein, je pense qu'elle ne fait que réfléchir.
Et d'ailleurs, elle continue à courir.
Oui.
et ce qui est intéressant, c'est que Merlène Otte, qui est en tête encore au, je sais pas, 150, 160 mètres, on voit qu'elle sent le souffle, elle se retourne plusieurs fois, son visage se crispe à son tour, et elle se dit, mais je vais pas la gagner.
Non, c'est horrible.
Elle est chassée à ce moment-là.
Ouais.
Elle
qui c'est terrible pour Merlène.
Elle est chassée par la gazelle. D'habitude, c'est la gazelle qui est chassée.
Et oui.
Elle lui a ôté son titre.
Les lois de la nature peuvent se retourner contre vous.
Tout à fait.
Et voilà.
Et donc, n'oubliez pas d'écouter notre podcast Animaux, lundi.
Et Marie-Jo donc, lui passe devant dans les 10-15 derniers mètres.
Et cette
gagne.
Année, elle fait un doublé.
C'est magnifique, hein, tout simplement.
Elle fait un doublé cette année, comme Michael Johnson chez les hommes.
Ah oui, exactement.
La loco de Waco qui gagne et qui bat le record du monde aussi.
Oui.
En vrai, en plus, je crois que le temps qu'elle fait sur le 200 mètres, il n'est pas si incroyable que
22,
ça.
22-12, mais... il est moins incroyable que pendant la série.
Oui,
pendant...
ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc ça montre qu'on est dans des courses tactiques. Elle n'est peut-être pas en vitesse pure la meilleure sur 200 mètres, et elle le sait. Mais il y a des filles qui courent plus
mais
vite qu'elle.
Psychologiquement, elle démolit les adversaires.
Exactement. Hein.
Je trouve que c'est intéressant de se dire que sur une course de 200 mètres, il peut y avoir vraiment quelque chose de tactique. Enfin, c'est peut-être bête ce que je dis.
Non.
Mais c'est tellement court.
On parle d'une vingtaine de secondes, quoi. C'est incroyable.
Enfin,
bah, au contraire,
c'est
la moindre foulée, la moindre seconde. Et décisive.
Non, mais c'est dans le métro, quand on court après, franchement, pour pouvoir sauter la barrière.
Alors, je trouve ça incroyable, ces athlètes qui s'entraînent sur le 100 ou le 200, hein, notamment 4 ans, si l'objectif devient les Jeux Olympiques.
Oui, bien sûr.
4 ans, tu cours, tu vas à l'entraînement. Et toute ta carrière sportive dépend de 10 ou 20 secondes.
Oui.
Je trouve ça incroyable.
Bah, surtout quand tu fais un faux départ ou quelque
dire,
chose comme ça, c'est.
Bah, il y a cette vidéo de Drummond qui fait un faux départ et qui fait le deuxième, enfin, et qui ne veut pas bouger de son couloir.
Oui.
Il n'y croit pas. Il dit non, je n'ai pas bougé. C'est pas moi.
C'est terrible.
C'est horrible.
En plus, souvent envie de pleurer.
La règle a changé maintenant. Elle est infâme puisque maintenant il y a le droit à un premier faux départ général et ensuite.
C'est le premier éliminé.
Fait le deuxième faux départ, il est éliminé.
Oui, même s'il n'a pas fait un faux départ la fois d'avant.
Avant, on avait le droit à finalement 7 faux départs, enfin 8 même.
Après, c'est psychologiquement, t'imagines quand il y a 7 faux départs.
C'est
affreux. Je crois que le monde du sport compétitif n'est pas très juste.
En tout cas, il est dur.
Il est très dur.
Il est dur.
Mais vous voulez que je vous dise.
Les règles sont strictes.
Vous voulez que je vous dise.
La vie est dure.
Exactement. La vie est dure. Marie-Jo.
Pour Alex, c'est de l'ex.
Elle est au summum.
Elle est juste au summum.
Elle a le troisième titre olympique.
Là, c'est l'apogée de sa carrière.
C'est l'apogée.
C'est un peu plus.
Vous vous rendez compte.
C'est au soleil.
3 médailles d'or aux Jeux Olympiques.
Non, mais c'est
française en athlétisme.
Moi, j'attends toujours ma première. Mais j'y crois encore.
D'ailleurs, tu vas te. C'est quelle discipline que tu nous fais pour 21 Tokyo?
Natation synchronisée.
Magnifique.
Ah, c'est bien ça.
En tout cas, elle entre au panthéon du sport.
Oui.
Mais cette apogée de carrière est en fait vraiment derrière. Ça va très vite retomber. Hein, on peut dire c'est
l'apogée et c'est le début de la descente aussi.
Et oui. Et que s'est-il passé? Et je crois que pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé, hein, parce qu'on va aller de 96 jusqu'à Sydney 2000, hein, comme vous vous en doutez un peu. Et je pense que pour comprendre l'histoire, on l'a déjà pas mal dit, mais on va pas trop se répéter, mais quand même revenir un peu sur son caractère qui est assez complexe. Je pense que c'est important parce que donc on l'a dit, ça a toujours été quelqu'un d'assez fragile, qui a souvent eu peur et qui n'a pas une grande confiance en elle. Son équilibre est fragile.
Oui.
Et en fait, ça va s'exprimer dans ses actes, hein, finalement.
Alors, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé à l'époque dans les médias. Je pense que, quand je disais, on n'arrive pas à la comprendre, c'est qu'elle est très complexe. C'est une personne absolument complexe qui oui, se renferme.
Mais Olivier, ne sommes-nous pas tous des êtres complexes ?
Si je dis pas de bêtises, elle est taureau, ascendant balance, donc c'est pour ça aussi. Hein. Franchement, ça, ça joue de ouf.
Younes, on en a très vite fait le tour, par exemple. Mais, non, je rigole, Younes.
T'inquiète pas, il aura oublié dans deux minutes.
Comment ? Vous êtes qui ?
Alors 68, Marie-Jean.
Non, mais c'est vrai qu'elle a, elle a tendance à se murer dans le silence, pour le coup. Elle a tendance à ne pas essayer d'aller vers la communication. Après, et le dialogue, à un moment donné, quand on commence à avoir une blessure, à ne plus être en accord avec son entraîneur, à se sentir un peu seul, bah, ça vous explose à la gueule encore plus. Parce que, du coup, les problèmes se multiplient encore plus, alors que ce ne sont pas forcément des problèmes plus importants que ça.
C'est peut-être aussi une multitude de facteurs, son éloignement aussi du territoire, qui fait qu'elle est partie vivre aux États-Unis, tout simplement. Le fait qu'elle s'aperçoit aussi qu'en France, on la moque un peu, donc à travers les guignols. Je ne pense pas qu'elle ait eu ce second degré pour pouvoir assumer complètement le rôle qu'elle avait public et la personnalité qu'elle était devenue. Et derrière, effectivement, une personne qui se vexe, c'est pas forcément quelqu'un qui a un esprit facile pour la télévision, les médias, une personne que l'on retrouve facilement sur les plateaux de télé. D'ailleurs, peu de fois, on l'a vu en interview. C'est plutôt quelqu'un de fragile dans la
très à l'aise.
À l'aise, ouais.
On a de la protéger, on a envie
exactement, on a envie que ça s'arrête assez vite. On a envie que ça s'arrête assez vite parce que on sent que
qu'elle aime pas trop ça.
Elle aime pas ça du tout même.
Et en plus du mental, après 96, elle va subir pas mal de déboires médicaux en plus, je crois.
Des blessures déjà.
Ouais, elle va devoir déclarer forfait au championnat du monde à Athènes à cause d'une élongation de la cuisse droite et c'est surtout en 98. On va lui découvrir un virus d'Epstein-Barr, je crois.
Oui, c'est un petit virus. Alors, il y a notamment, il provoque la mononucléose.
Ça fatigue beaucoup.
Et un autre.
Federer l'a eu. Il a quasiment raté une année.
Il a eu ça aussi.
Ouais. Et la myocardie aussi.
C'est vrai. Oui.
C'est un virus qui vraiment te fout en l'air. Elle va à l'hôpital, elle reste à l'hôpital, mais je crois qu'elle sort, elle re-rentre. Enfin, c'est genre. Quasiment son année est à l'hôpital.
Tu disais qu'elle avait pris 10 kilos, c'est ça?
Oui. Elle va avoir un traitement à la cortisone.
Après le traitement médical, la cortisone amène 10 kilos en plus.
Tu sais qu'elle prend 10 kilos, donc ça ne l'aide pas du tout. Enfin, entre 97, 98. Enfin, de toute façon, toute la préparation pour 2000 et.
Elle perd clairement son corps d'athlète en fait.
C'est des moments de crispation énorme et pour quelqu'un qui n'est pas une grande communicante, forcément c'est difficile de continuer à s'ouvrir et de ne pas se crisper encore plus quand on vit des déboires.
Oui. Et de ne pas se sentir soutenue non plus par.
C'est vrai.
En tout cas, elle va finir par sortir de l'hôpital, sortir de sa convalescence, rejoindre son équipe, mais son retour ne cesse d'être poussé, ses performances ne sont pas trop au niveau. Et en 2000, il va se passer quelque chose qui s'est déjà passé dans sa vie. Elle va quitter son entraîneur.
Et alors, fait un petit peu ironique.
Oui, parce que John Smith ne savait pas peindre le vent au mille coups.
Elle l'a placé.
Ah,
bravo.
Bravo, Chloé.
Après, je vous chante des sauvages.
Fais gaffe.
Donc
elle change d'entraîneur. Elle a plus l'espèce de secte HSI, là. Elle prend Wolfgang Meyer. Elle voulait quelqu'un de meilleur et alors meilleur c'est rigolo parce que c'est le mari de Marita Koch donc qui est la record woman du record du monde de 400 mètres
et
c'est d'autant plus ironique car Marie-José Bérec critiquera un peu ce record du monde là à chaque fois dans ses sorties à l'époque en disant que grosso modo ça valait rien, était chargé, etc.
La pharmacie
et puis
était
en 2000 elle se trouve
finalement
un petit sponsor comme ça, elle va les voir. Elle fait salut.
En tout cas, sans faire une année 2000 incroyable, elle va quand même obtenir son ticket pour les JO de Sydney.
Oui, enfin, elle fait le minima avec un temps de 50-32. Quoi. Alors, connaissant.
Mais je crois que c'est pas la seule course qu'elle fera sur 400 mètres en l'an 2000. Elle a besoin que d'une course pour se qualifier, certes, mais elle est très loin de ses standards.
Ouais, je me demande si t'as pas raison sur ça.
Et aux JO, elle doit retrouver quelqu'un qu'elle connaît bien, qu'on connaît bien aussi, c'est Cathy Freeman. Et là, Cathy Freeman, c'est chez elle, donc c'est la chouchoute.
Elle a une position de force de ouf. C'est elle qui a la torche, c'est elle qui a
Exactement. Et donc pour Marie-Jo, ce séjour à Sydney, ça se passe bien? C'est cool les vacances à Sydney ou pas?
Alors, c'est pas ouf.
C'est pas terrible.
C'est pas ouf.
C'est l'enfer même, je crois.
C'est parce qu'elle flippe. En fait, elle se remet à réfléchir et à stresser, et du coup, ça se passe pas bien. Et un certain 20 septembre, oh, quelle belle journée pour naître!
C'est l'anniversaire de Chloé.
Dites bon anniversaire à Chloé, s'il vous plaît, sur Twitter.
Jusqu'au 20 octobre, vous pouvez me souhaiter mon anniversaire.
Non, mais ça va être assez fort parce que rien qu'en arrivant, elle va prendre une décision qui peut être assez surprenante et qui peut être une décision aussi qui peut être perçue comme un peu hautaine, enfin moi je trouve comme ça, puisqu'elle décide de ne pas séjourner au village olympique avec le reste de la délégation française, mais dans un hôtel en ville. Alors elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle voulait être à l'abri des journalistes, des médias, etc.
Choix un peu étrange, puisque justement l'hôtel français était bien séparé des paparazzi, alors que là elle est très exposée encore plus, puisqu'elle n'a pas tout le service
d'ordre
qui peut permettre
de
la couper de ça.
D'autant plus quand t'es championne du monde, championne olympique, et que tu décides d'aller tout seul dans ton hôtel, ça attire forcément les regards. Marie-Jo, t'as mal joué là-dessus, et c'est ce qui va d'ailleurs
elle sort aussi fragilisée de ces années de maladie, enfin de cette année de maladie.
Non, mais ce qui est terrible, parce que du coup les guignols vont encore plus les médias vont encore plus l'enfoncer là-dessus,
tirer sur l'ambulance, comme on dit.
On sent que voilà, enfin on a l'impression qu'elle est même victime d'une forme un peu presque de, enfin je sais pas si c'est de la paranoïa, mais voilà, elle se sent vraiment harcelée. Elle va dire que quelqu'un s'est introduit dans sa chambre, l'hôtel va dire que ce n'est pas vrai, je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Elle a cette énorme pression donc sur les épaules face à Cathy Freeman, et comme tu disais Chloé, et ben le 20 septembre Marie-Jo, ben elle disparaît,
elle prend son supplément bagage,
c'est ça, c'est la consternation. Et je vous propose d'écouter le JT du lendemain, du 21 septembre 2020.
Tout a commencé la veille. La championne quitte son hôtel, destination inconnue. On l'aurait vu à l'aéroport. Les médias australiens sont sur le pied de guerre. Raison officielle de son départ, une agression dans sa chambre d'hôtel. La direction d'établissement dément. Au petit matin, c'est la gueule de bois pour la délégation française. Une conférence de presse est improvisée, les réactions amères, la situation pathétique.
On peut confirmer effectivement qu'elle a pris l'avion. Bien entendu, sans prévenir la délégation française. Donc c'est pour ça que nous étions dans l'impossibilité de donner d'informations avant cette heure-ci.
Anna Rabin, quartier général des Français. On n'est ni surpris, ni indulgent.
Bon, je crois qu'à un moment donné, on va dire stop. On va arrêter le feuilleton Pérec. Si elle est là, tant mieux. J'y crois plus. Je pense qu'elle est partie. Maintenant, elle est partie. Il y a 55 athlètes donc, qui sont eux partis pour faire des Jeux Olympiques. On va s'occuper d'eux sérieusement.
Marie-José Pérec, si elle part, sincèrement, nous, ça ne nous fait pas grand-chose.
À Sydney, la fuite de Marie-Jo fait la une de tous les journaux. Il faut dire que depuis l'ouverture des Jeux, l'Australie s'était enflammée pour le mystère Pérec. La diva française, comparée à Greta Garbo, tranchait singulièrement avec l'image de sa rivale Cathy Freeman. Et avec le départ de Pérec, c'est une page qui se tourne. Pour les Australiens désormais, l'avenir a un autre visage.
Bah bien sûr, ils sautent sur le cas.
La diva, quoi.
Mais moi, j'aime pas trop les Australiens.
Non, mais ce qui est
moi, je déteste.
Ce qui est vrai, c'est que elle est présentée. On sent qu'il y a un côté diva qui lui est reproché à tort ou à raison par la délégation française. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marie-Jo s'est enfuie. Elle est donc fait forfait pour les JO.
Ça, c'est un fait.
Et qu'elle n'a prévenu personne.
C'est là où on sent qu'on est en 2000, parce que vraiment, si ça avait été aujourd'hui, en bout de 5 minutes, quelqu'un aurait mis un snap de Marie-Jo dans l'avion, genre « Regardez, putain !»
C'est
pas du tout le cas. Et là, effectivement, ce qui est assez ouf, c'est que pendant au moins 24 heures, on ne sait pas où est Marie-Jo.
Elle va être retrouvée à l'aéroport de Singapour par des journalistes, où il y a une altercation entre un journaliste et le compagnon de l'époque de Marie-José Pérec.
Ils boxent les mecs.
Tout le monde va finir au poste. Et l'équipe du 22 septembre va titrer sobrement « Pourquoi ?» Pourquoi Marie-Jo, pourquoi es-tu partie ?
Eh oui, mais c'est triste, parce que j'ai l'impression, franchement, qu'avec les athlètes français, ça se finit toujours comme ça, avec la presse, l'opinion publique. C'est toujours un petit peu...
Ça se retourne contre eux.
Ça se retourne contre eux. Bon, elle a été un peu lâchée aussi, j'ai l'impression.
T'es dur, Younes.
Mais moi, j'arrive pas... Il y a quand même un truc...
Non.
Il y a quand même un truc sur...
Oh oui.
Mais du coup, il y a un truc... J'ai pas tout saisi, mais du coup, le gars... On sait pas s'il y a vraiment un gars qui est venu dans sa chambre ou pas. Elle dit qu'elle a été harcelée par les médias australiens, mais eux, ils disent non. On revoit les unes, on sent que c'est pas tellement sur Marie-Jo, mais en même temps...
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait le choix de ne plus être avec la fédération, que les médias australiens n'auraient pas pu l'harceler, si c'était le cas, parce qu'elle aurait été protégée avec la fédération. En même temps, elle n'y a pas été avec cette fédération parce que peut-être qu'elle ne s'y sentait pas invitée et à l'aise.
Mais je pense que, enfin, j'en sais rien, moi, j'ai mon sentiment quand je lis des articles, quand on regarde des interviews, c'est que elle s'est sentie harcelée à tort ou à raison. En tout cas, elle, c'est ce qu'elle a ressenti, c'est des agressions, c'est des harcèlements. Et c'est ce qu'on disait, elle était fragile psychologiquement. Et en fait, elle a complètement pété un câble, elle a craqué.
Et a raison.
Et c'est triste, c'est dommage, mais il y a aussi quelque chose qui la rend très humaine de ce craquage complet.
C'est pour ça qu'on l'aime.
Le comportement, il est objectivement intolérable. Quitter une délégation, prévenir personne, partir comme ça. Enfin, je veux dire, personne n'a le droit de faire ça. Quand t'as son CV, tu peux pas faire ça. Mais en fait, comme
t'envoies au moins un whiz. Ouais,
voilà.
Cochon qui danse.
Tu fais un snap, mais comme dirait Younes, en fait, elle est peut-être prisonnière en fait de cette situation.
Oui.
Elle a subi des agressions, elle estime les avoir subies, elle est trop mal.
Elle sort de 3-4 ans aussi où elle n'a pas du tout été au niveau de ses compétences.
Côté australien,
elle a pas envie d'être en compétition avec les Français, qu'ils soient d'une autre discipline ou non. Mais peut-être qu'il y a aussi un truc de je me sens pas à ma place. Et les gens ne font pas me sentir à ma place non plus.
C'est surtout ça. Après, les Australiens, pour eux, c'est peut-être plutôt pratique parce qu'ils ont beaucoup misé sur l'image de Freeman et que Freeman ne gagnant pas cette course, c'est peut-être aussi une petite tâche dans l'organisation.
Freeman ne gagnera pas,
Non, mais en tout cas,
Freeman va gagner, évidemment. Ça va être un triomphe pour Freeman. Mais
si Perez joue contre Freeman.
Ah oui, d'accord, pardon, j'avais pas compris.
D'ailleurs, j'aimerais bien avoir la stat de. Rien à voir, mais j'aimerais bien avoir la stat de. Entre l'athlète qui allume la flamme et qui devient champion olympique derrière, s'il y en a beaucoup. Voilà,
c'est le prochain sujet.
Voilà. Voilà, non, mais j'aimerais bien avoir cette stat, si vous l'avez, cher public.
On peut la trouver.
En tout cas, Marie-Josée Perec ne reviendra jamais sur le devant de la scène. En athlétisme,
non.
Elle va prendre sa retraite en 2004, semble-t-il plutôt à contre-cœur, mais pourtant elle va déclarer plusieurs fois par la suite « Je suis très heureuse que le tourbillon s'arrête enfin ». Marie-Josée Perec est insaisissable jusqu'au bout. Est-ce que vous avez encore un mot à rajouter sur sa trajectoire ?
Bah, on l'aime quand même.
Elle est très touchante quand même, je trouve.
Moi, je me retrouve beaucoup en elle.
Et ce qui est très. Est-ce que vous savez ce
déjà dit ça sur Florence Artaud.
Oui. Non,
et sur Mike Tyson. Non.
Mais alors, permets-nous, Chloé, d'avoir
Florence
quelques doutes.
Florence Artaud, c'est la personne que j'aurais voulu devenir.
Ah,
mais je suis plutôt Marie-Josée Perec.
Mais alors,
Raymond Domenech dans tout ça.
Mais quelle Marie-Jo,
ça se voit pas parce que je vais souvent chez l'esthéticienne, mais au niveau des sourcils, c'est chaud, mon gars.
Donc Marie-Jo insaisissable, Marie-Jo touchante, et vous savez ce qui est touchant aussi dans EPO, c'est le générique de l'antidoping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping, donc il fallait faire la petite chose.
Et c'est Thibaut qui s'y colle. Surprise, surprise.
Allez, fini Marie-Jo.
Ah.
JFK, MJ, J2M, NKM, BHL, PHM, EPO.
SNCF.
De Kennedy à Paul-Henri Mathieu, en passant par Michael Jordan, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bernard-Henri Lévy, Jean-Marie Messier et les patents podcast Omnisport.
Avec un S.
Avec un S. Oui, les grandes stars de ce monde ont leur acronyme devenu des patronymes. Tous, y compris PAB. P-A-B, Pierre-Ambroise Boss. Ça vous dit quelque chose ?
Bien sûr, son chat.
Il a le nom du joueur de foot sans licence dans FIFA ou d'un coureur de 10 000 mètres dans un sketch des Inconnus, mais pourtant, il nous a fait vibrer au championnat du monde de Londres en 2017 comme personne, ou plutôt comme Perec, comme Rinner, comme Jean-François Copé et Benoît Hamon dans des meetings électoraux, ou comme le roi Martin Fourcade sur la piste boutant les Norvégiens hors des podiums. Et moi, j'aime pas trop les Norvégiens. Alors rendons l'hommage qu'il mérite à Pierre-Ambroise Boss, qui a marqué l'histoire du sport français en réalisant un exploit réellement inattendu, qui m'a fait vibrer. Peut-être plus que le Stade Malherbe un week-end de 0-0 à Chambly. Si, je le crois pas. Je vous le dis. On a beaucoup parlé dans ce podcast de 200 mètres, de 400 mètres, mais que dire du 800 mètres?
Et là, alors, du coup, ça va être le 800 mètres Boss.
Oui. Oh, c'est beau!
800 mètres, c'est 2 x 400 et c'est 4 x 200.
Alors, ordinairement, le 800 mètres, c'est un peu la discipline qu'on regarde pas trop, finalement. Ou qu'on regarde entre un champion olympique français au saut à la perche et l'attente des 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres du vrai dessert. Et pourtant, on devrait la regarder d'un peu plus près. Parce que le 800 mètres, c'est une course assez géniale. C'est une course où il faut partir fort, où il faut continuer fort.
Et où il faut finir fort.
Finir fort. Donc finalement, cette espèce de discipline salle d'attente qu'on ne veut pas regarder, bah, Pierre-Ambroise Boss, PAB, va nous la transformer en vrai place to be. Alors, si on s'arrête un peu plus sur l'histoire de ce sport, pas très longtemps, parce qu'elle n'est pas non plus méga intéressante.
Mais on a une demi-heure.
Bah nous, on est, nous, dans 800 mètres, on est un nain. Hein. On n'existe pas en France, en 800 mètres. On a rarement joué les premiers rôles, hormis rapidement un monsieur qui s'appelait Michel Jazzy, qui avait commencé par faire du 800 mètres. Avant
et de la musique.
Du 1500 et du 5000 mètres. C'était au début des années 60, en pleine année fac pour Younes. La France ne
s'est prof à la fac.
Jamais hissée au niveau des stars de la discipline, qui sont plutôt des Kenyans comme Wilson Kipketer ou David Rudisha, des grands champions. Dans cette grande mêlée internationale va surgir PAB. Alors PAB, il sort pas de nulle part. Il a été formé à l'INSEP. On a parlé tout à l'heure de l'INSEP.
Comme Marie-Jo.
Ouais, c'est
comme
à Vincennes.
Marie-Jo, exactement. C'est un pur produit de la formation française. Il est champion de France hyper tôt, à 20 ans. En 2012, ensuite il va gagner des premières médailles aux championnats d'Europe, il va disputer les championnats du monde. Carrière plutôt linéaire, il va terminer quatrième, non pardon, il va perdre en demi-finale de ses premiers Jeux Olympiques en 2002.
Non.
4.
Non, plus loin, plus loin.
8.
Bien plus loin.
Mais non, mais non.
12.
En 2012, mais surtout,
ah. 12.
Qu'est-ce qui est intéressant chez PAB, c'est qu'il commence à se faire connaître pour des interviews complètement déjantées d'après-course, complètement folles. C'est le seul athlète au monde à louper un podium olympique pour moins d'une demi-seconde et à garder le sourire en s'adressant à son chat, au micro Nelson Manfort.
Oui,
en 2012, il va terminer quatrième des Jeux Olympiques. Quatrième, ou en 2016, j'ai un doute.
C'est un génie.
Il dira notamment « Je sais que tu espérais mieux, toi aussi. Tu m'avais dit de faire une médaille, je ne l'ai pas fait, je suis désolé. Raps, voilà ce que tu vas faire. Tu vas descendre de ce canapé, tu vas aller jusqu'au frigo, tu vas ouvrir la porte, tu vas ouvrir une bière et la boire cul sec pour moi. »
Pardon, je suis à moitié Marie-Josée Pérec, à moitié PAB. Vraiment.
C'est tellement mignon.
Le chat de PAB s'appelle Raps. Rien à branler au pluriel. C'est son nom. Quand je vous dis que toutes les stars ont leur acronyme, il faut me croire. Alors, je vous vois tous venir, vous allez vous lever comme un seul homme et me dire, mais finalement, il nous ment, Thibaut, PAB, c'est un champion, un grand champion. Bon, on s'attend à ce qu'il devienne champion du monde. Il a une carrière très linéaire.
Ouais.
Mais non, pas du tout. Déjà, parce qu'en sport, entre la 4, la 5e place et la 1ère, il y a une
montagne.
Une galaxie. Et c'est ce qui rend ce sport beau. Exemple, Younes, être le 4e homme le plus vieux au monde. Tu n'as pas le droit de devenir doyen de l'humanité un jour.
Non.
Tu n'en sais rien. Ça n'arrivera peut-être pas, Younes.
Peut-être voir jamais.
Bon, Younes s'est endormi. Donc, rien n'est acquis dans ce sport. Et pour PAB, c'est d'autant plus vrai que la saison 2017, celle de la gloire, celle qui va le faire devenir champion du monde, eh ben, elle commence très mal. Il est blessé, il va mal, il peut disputer aucune course. Le temps file, on est début juillet, il n'a rien fait. Il ne lui reste qu'une course pour se qualifier pour les championnats du monde. Évidemment, l'histoire est belle. Il s'inscrit au meeting de Monaco. Il fait les minima, c'est-à-dire les temps minimaux pour se qualifier pour les championnats du monde. Il se qualifie pour les championnats du monde.
Bravo!
Super. Bravo, PAB. Il arrive aux championnats du monde en 2015. Bon, et là, il a à peu près autant de chances d'être champion du monde qu'Olivier de trouver un vaccin contre le Covid.
je travaille.
Il cherche pourtant. Il bosse dur. Hein. Moi, je l'ai vu, il bosse.
Et là, en 2015, il dispute les séries. Bon, il est deuxième de sa série. Il dispute les demi-finales. Ça se passe pas bien. Il est troisième. Il est repêché au temps pour la finale. Enfin,
ah ouais.
Pas terrible. Enfin,
non.
Peu de chance d'être champion du monde. Et la suite, c'est PAB qui va la raconter au micro de Nelson Monfort après la finale. Cette
génial.
Fois. Alors, on n'a plus d'audio, donc je vous le fais. Je ne peux pas vous imiter avec les accents comme Chloé, mais comme je peux.
Ah, moi, je suis là. Hein.
Merci, Chloé. Vous savez à quoi je pense? Un truc de fou. Je pense à moi, hier soir, j'avais une bouteille en main, je reçois un appel d'un ami, je jette la bouteille fermée sur mon lit, il me raconte une anecdote et il y avait cette bouteille qui s'était vidée sur mon lit. J'ai pris mon sèche-cheveux et j'ai pensé, pourquoi pas moi demain? Je me suis dit, il n'y a que moi pour mouiller mes draps la veille d'une finale mondiale, sans fille dans la chambre. Vous n'avez rien compris?
Classe.
Ah, si, c'est classe.
C'est normal. Enfin, si vous avez compris une chose, c'est que Pierre-Ambroise, il l'a gagnée cette finale.
Ouais.
Il l'a gagnée au panache, face à des champions énormes. Quel champion?
Des champions énormes.
Des champions énormes. Alors un Polonais au nom cauchemardesque pour tous les orthophonistes, Adam Kshot, une révélation botswanaise, Nigel Amos. Bref, PAB a pris les devants dans une course rapide mais tactique, comme on l'a vu sur les courses de 200 ou de 400. Il a pris les devants, il a attaqué à 300 mètres de l'arrivée, ce qui est juste énorme.
Eh oui.
Et il a vraiment pris le périph' pour la gagner cette course, parce qu'il a dû se déporter sur la deuxième ligne, donc il a fait une distance bien supérieure à tout le monde.
Ah oui, parce que sur 800 mètres, t'as le droit de te rabattre,
t'as
tu peux dépasser la ligne cette fois-ci.
C'est vraiment l'attaque précoce qui fonctionne une fois sur 100. Nelson a eu beau nous prévenir sur sa douce voix sur France 2 que PAB tentait le coup de poker absolu, le coup impossible, PAB n'en a eu cure. Il est parti à la rencontre de son destin et personne ne l'a jamais rattrapé dans cette dernière ligne droite interminable. PAB 1, shot 2, bête 3, champion avec un acronyme 1, champion sans acronyme 0. Non, Sarah, j'ai pas fini. La France a un champion du monde du 800 mètres.
Ouais.
Sarah, tu peux lancer la Marseillaise.
Allons.
Deux mois avant, PAB reprenait à peine l'entraînement. Et il disait à son entraîneur, ce sera trop juste pour les championnats du monde. Et en revanche, la veille de la finale, il annonçait à son entraîneur qu'il allait lui faire un tour de magie. Notre David Copperfield a bien réalisé un tour de magie génial en transformant ce 800 mètres en véritable finale de Coupe du Monde et en passant du statut de très bon coureur à champion du monde en quelques minutes. On a vibré comme rarement et c'est pour ça qu'on aime autant le sport à EPO. Bravo mon PAB.
Ah, c'est trop beau, ça me donne trop envie de revoir sa course.
Et alors, je crois que c'est en 2016, Histoire du chat, et qu'il promet de le ramener et qu'il l'amène. Il y a une photo de lui dans un meeting ou un championnat du monde avec le chat. Ça, je me souviens bien. Il est avec son chat, il le ramène.
Et on vous
c'est sur la piste. Parce que j'ai inversé les deux. 2012, je crois qu'il perd en demi-finale. Et 2016, il termine quatrième.
On partagera cette photo avec vous sur les réseaux sociaux.
Oui, comme on partage tout.
Tout avec vous sur les réseaux sociaux. En attendant, c'est bientôt l'heure de se quitter.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en attendant de nous retrouver et d'écouter d'autres podcasts, peut-être de fréquence moderne
avant la fin du monde.
Ah super, oui, par exemple.
Comment ça s'appelle le truc sur le cinéma là.
Ah ouais, le truc avec les petits rigolos là qui essayent de nous faire marrer. Je sais plus. Tant pis. Et puis n'hésitez pas à nous proposer des sujets.
Oui, on les note, on les met, on a plus de 70 sujets, mine de rien.
On débat, on discute autour. Et puis
donc voilà, ça va arriver.
On a un coffre-fort.
N'hésitez pas, si vous avez envie de nous mettre un petit mot de temps en temps, ça fait toujours plaisir.
Oui,
sympatoche de préférence.
Et puis voilà, Facebook, Instagram, Twitter.
Suivez-nous.
Et MSN.
Exactement. Et puis.
Pour les cochons qui dansent.
Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour parler encore une fois de sport tous ensemble.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Salut à tous. With time figures, real niggas fingers on nickel plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded open fire. Now them niggas bleeding. See me in flesh and test and get your chest blown.
I know it's hard, nigga. I'm all up in your face.